Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bienvenue pour cette journée de sabbat. Dans un moment, le sabbat va commencer. Et je pense aux paroles de ce chant que vous connaissez, qu'on n'a pas nécessairement besoin de chanter. L'astre à l'horizon descend, sur les monts l'ombre s'étend. Veillons pendant que la nuit au ciel allume sans bruit ses lampes d'or. Tandis que s'éteint le jour, la prière au Dieu d'amour, vers ton saint trône voilé au fond du ciel étoilé, prend son essor. Dans ton église, en tout lieu, Seigneur, sous les vastes cieux, rassemble tous tes enfants, rends-les courageux, vaillants, sous ton drapeau. Il y a encore d'autres strophes, vous les connaissez. C'est simplement quelques vers que je trouve bien formés pour nous introduire dans cette mentalité du jour du sabbat. Je ne sais pas qui a eu la bonne idée de trouver ce thème, « Soyez transformés ». Excellente idée. Parce que ça se place tout droit dans la ligne de cette initiative de l'Église mondiale. Réveil, réforme. Alors, « Soyez transformés » se situe bien entendu dans le cadre de la réforme, mais on n'a pas de réforme valable et solide tant qu'on n'a pas un réveil à la mesure de ce que l'on veut atteindre. Alors ce soir, puisqu'on se voit encore demain soir d'ailleurs, j'ai pensé parler ce soir avec vous un peu de cette notion de réveil et de lui donner un fondement, une orientation, de manière à ce que, en travaillant sur la transformation, on ait un ensemble. Réveil, réforme. On prie ensemble. Notre Dieu, notre Père, dans ta bonté, bénis ce moment ce soir et donne-nous la grâce de voir ta parole prendre vie sous nos yeux et dans notre cœur, nous te le demandons. Au nom de Jésus. Amen. Il y a quelque temps déjà, avec ma famille, j'ai traversé le Canada d'est en ouest. Qui c'est qui a fait ça ici? Levez la main. D'est en ouest. D'un bout à l'autre. Non. En voiture. En voiture. Bon, ça manque encore à votre expérience, hein, ceux qui n'ont pas levé la main. Parce que tant qu'on est au Québec, qu'on est encore dans l'Ontario, ça va. Mais quand on arrive dans Manitoba et Saskatchewan, bon, il n'y a pas beaucoup de Québécois ici, vous allez comprendre, hein, c'est plate. Puis c'est plate à mourir. Faites-le l'été quand il fait chaud, ça tape comme il faut, la route est droite, plus droite on n'a pas. Puis pas seulement droite comme ça, droite comme ça. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. C'est droit, il fait chaud, vous roulez. Et puis vous roulez, puis le virage, vous l'attendrez longtemps. Hein. Bon, il fait chaud et finalement, au bout d'un moment, on a tendance à s'endormir. Alors, vous savez, il y a ces trucs au bord de la route, là. Heureusement, il faudrait qu'ils en mettent aussi au milieu des routes, parfois, ce serait bien. Mais on s'endort là-dessus pendant des dizaines, des centaines de kilomètres, on est droit. À tout point de vue. Puis c'est pas qu'il y a des tonnes de choses à voir. Et quand je pense à ça, je pense un peu à notre expérience spirituelle aussi. Ça peut être ça. La carte, on l'a, la route, elle est droite, parce que les prophéties, on les connaît, c'est clair, c'est net. La doctrine biblique, on la connaît, pas de problème, donc on y va, la route est droite. Et puis ça roule, on est dans la chaleur de l'Église. On avance. Et puis, au bout d'un moment, on peut s'endormir. Hein. Ben, d'ailleurs, Jésus écrit à l'église de Laodicée, il leur dit, les gars, réveillez-vous. Vous êtes tous à moitié endormis. Dormez ou réveillez-vous. Tiède ou chaud. Mais dans l'église, c'est vrai qu'on peut finalement s'endormir gentiment, la route est droite. prophétie est claire, on attend que ça se réalise, et puis tout va bien. D'où la nécessité de réveil et de réforme, sur une base biblique, pas simplement de jeter les bras au ciel, de crier et puis de dire « Ah, mais je suis réveillé !» Non, je parle d'un réveil qui est une expérience personnelle, qui est une expérience aussi qui se partage, mais qui correspond à un renouveau qui porte des fruits en préparation pour le retour de Jésus. Alors j'aimerais ce soir regarder avec vous l'histoire d'un réveil dans les Écritures. Parce que ce réveil qui est dans les Écritures me paraît apporter une carte à suivre, une marche à suivre pour induire un réveil dans notre vie. Le réveil, c'est Dieu qui le produit, sans aucun doute. Mais nous avons notre part à faire pour que le réveil puisse se produire, pour que le Seigneur puisse faire quelque chose. Et ce réveil qui est dans les Écritures, j'aimerais le regarder avec vous parce qu'il contient les étapes d'un vrai réveil. Cette histoire se trouve dans le livre, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 22. Deuxième livre des Rois, chapitre 22, on a là l'histoire du roi Josias. Josias est le 16e roi d'Israël, le roi de Juda en fait. Il règne à Jérusalem et il est le dernier bon roi qui va régner à Jérusalem. Ce roi va monter sur le trône, comme nous dit le texte, à l'âge de 8 ans. Et il va régner, nous dit le verset premier, à Jérusalem pendant 31 ans. Il y a dans l'histoire qui suit 7 étapes qui conduisent à un réveil. Un vrai réveil, un réveil qui s'est vécu à ce moment-là, qui s'est vécu en profondeur. Alors j'aimerais le regarder avec vous. Josias ne vit pas une situation privilégiée, parce que Josias est le fils de Manassé. Et Manassé a été un des pires rois qui a pu régner à Jérusalem. Vraiment un mauvais roi. Il nous est dit qu'ils ont fait des choses pires que ce que faisaient les païens à côté. Et son fils Josias, nous dit le texte, a marché dans la voie du Seigneur. C'est déjà encourageant parce que j'apprends que les circonstances de ma vie ne me déterminent pas. Vous pouvez sortir de foyers dysfonctionnels. Vous pouvez avoir vous-même vécu dans votre vie des situations qui ont détruit des espoirs, qui ont détruit peut-être des éléments de votre vie et vous ont mis complètement par terre. Ces situations-là ne nous déterminent pas. Josias, sortant d'un foyer païen, dysfonctionnel, à l'âge de 8 ans, va prendre la bonne voie. Nous avons tous cette possibilité de prendre la bonne voie, quel que soit le passé, quel que soit le contexte dans lequel nous avons grandi, quelles que soient les circonstances que nous avons traversées. Et Josias va commencer son ministère. Et il nous est dit, au début de ce parcours, que Josias va provoquer une réforme parce qu'il veut restaurer le temple. Au verset 3, il déduit la 18e année du roi Josias. Le roi envoya dans la maison de l'Éternel Chaphan, le secrétaire. Un peu plus loin, il lui dit « Monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui en ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. » On va donc ramasser de l'argent pour restaurer le temple. Déjà, ça nous donne une idée de la situation du peuple, parce que pour que le temple tombe en ruine, ça veut dire qu'on n'en avait plus besoin, qu'on ne l'a même pas utilisé. C'est sûr, avec Manassé, ce n'est pas ce temple-là qu'on utilisait, ce sont tous les autres. Donc le temple est dans mauvais état. Et on va le restaurer, on va ramasser de l'argent dans le peuple pour remettre en ordre le temple. on part par conséquent d'une situation vraiment mauvaise. On n'a même plus besoin du temple. On ne fait même plus des sacrifices. On les fait aux idoles là-bas. Le temple, qui est l'image même du plan du salut, pour ceux qui l'ont étudié en détail, retrouvent les morceaux du sanctuaire, n'est même plus utilisé. Et on va le reconstruire, on va le remettre en état. C'est la première étape vers ce réveil. Prendre conscience de la situation dans laquelle on est et reconnaître qu'on a une restauration à faire. Josias s'est rendu compte que la situation du peuple, la situation spirituelle, était désastreuse. Il fallait faire quelque chose. Et je crois que c'est là la première étape dans ce retour vers Dieu. Vous vous souvenez de ce texte que l'on a dans l'Apocalypse où Jésus parle à l'église de Laodicée et lui dit « Écoute, réveille-toi, prends conscience de la réalité ». Et Laodicée dit « Mais moi, tout va bien, ça baigne, j'ai pas de problème moi. Je sais, je connais. » Et Dieu lui dit « T'as besoin d'un collyre pour voir clair. Ouvre tes yeux. Allume. » Vous connaissez dans les Écritures, il y a aussi un passage qui nous rappelle que le peuple de Dieu, à bien des moments de son histoire, est complètement inconscient de sa situation. Regardez quelques exemples dans le livre du prophète Malachie, par exemple. Malachie, on va juste lire quelques passages pour prendre conscience de la situation dans laquelle le peuple se trouvait à ce moment-là et qui peut, à bien des égards, être semblable à la nôtre. Remarquez en passant que Malachie est le dernier livre de l'Ancien Testament et qu'on a là, à l'époque, une situation de peuple endormi à la fin de l'Ancien Testament. Le dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse, commence aussi avec une lettre à un peuple endormi. Et je me dis, aïe, aïe, aïe. Est-ce que le peuple de l'Ancien Testament, qui s'endort dans son temps, va donner une image de ce qu'est le peuple du Nouveau Testament à la fin aussi ? Regardez comment le peuple de l'Ancien Testament réagit. Verset 2, Malachie chapitre 1, verset 2. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça commence bien. Phrase suivante. « Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé ?» Dieu dit à son peuple, « Je t'aime d'un amour éternel. » Réponse, « Ah ouais ?» Un peu plus loin, verset 6. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? C'est quoi le problème? T'as un problème, Seigneur? Un peu plus loin, pour ne prendre que quelques exemples, vous pouvez vous amuser ce soir à lire ce passage. Ce livre n'est pas très long. Vous allez être interpellé par la réaction du peuple. Un peu plus loin, chapitre 2, verset 13. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs, de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi ? Et il continue en disant, mais parce que vous êtes infidèles dans vos familles, dans vos foyers. Un peu plus loin, même chapitre, chapitre 2, verset 17. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué ? Regardez un peu plus loin ce texte que vous connaissez, chapitre 3, verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Vous vous rendez compte? Le peuple est totalement inconscient de l'état dans lequel il est. Pour lui, ça baigne, tout va bien. C'est le Seigneur qui a un problème, nous, tout va bien. Est-ce que ça peut ressembler au peuple qui a besoin d'un réveil? Sans aucun doute. Et je me pose la question, est-ce que l'Église de la fin des temps, est-ce que l'Église de la Odyssée est dans cette situation-là, puisqu'elle a besoin d'un réveil? Alors la première chose qui est importante pour nous, c'est de prendre conscience de l'état dans lequel nous nous trouvons. Regardez un autre texte dans le livre du prophète Agée, tout au fond de l'Ancien Testament. Dans le livre du prophète Agée, au chapitre 1er, il est dit ceci au verset 7. Un appel très simple. Ainsi parle l'Éternel des armées. L'équivalent de ce que Jésus dit dans le Nouveau Testament lorsqu'il dit « en vérité, je vous le dis ». C'est-à-dire, ouvrez bien vos oreilles, ce que je vais vous dire, c'est important. Considérez attentivement vos voies. Faites le point. Regardez où vous en êtes. Soyez honnête envers vous-même. Sachez en quelle situation vous êtes par rapport à Dieu. Considérez attentivement vos voies. Et puis vous connaissez ce texte aussi du psaume 139, un passage que certains d'entre vous connaissent peut-être par cœur. Les derniers versets du psaume 139 sont très clairs. Verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Voilà la première étape que l'on est invité à considérer. Prendre conscience de la situation dans laquelle on est. Ne pas être aveuglé sur soi-même. Savoir où on en est. Dans le séminaire que vous avez eu cet après-midi, la même idée est revenue. Prendre conscience de la situation où on est. Ça demande de s'arrêter, ça demande de considérer ses voies, ça demande de l'honnêteté par rapport à soi-même. Maintenant, je reviens à notre texte dans le livre des Rois, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 20. D'ailleurs, cette histoire, vous pouvez la trouver aussi dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 34. Et je vous propose de regarder d'ailleurs dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 34, pour voir un des deuxièmes aspects de ce processus. Deux Chroniques, chapitre 34, versets 14 et 15. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Hilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors là, c'est vraiment incroyable. Non seulement le temple n'est plus utilisé, mais ils ont perdu leur Bible. Figurez-vous qu'en faisant le ménage dans le temple, il fouille, il dit « Tiens, voilà la loi du Seigneur ». C'est un peu comme si, en faisant le grand ménage dans votre maison, ménage, nettoyage de printemps, commencez à nettoyer, à fouiller partout, à remettre tout bien en ordre. Et puis derrière le canapé là-bas, tiens, c'est quoi ça? Ah, c'est ma Bible, figurez-vous. Ah, ça faisait longtemps que je l'avais perdue. C'est ce qui leur arrive. Ils retrouvent leur Bible, le livre du Deutéronome, la loi de Dieu. C'est dire que ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas mis le nez dedans. Et pourtant, on apprend dans les Écritures, regardez par exemple dans Deutéronome chapitre 18, qu'il y avait une instruction donnée déjà par Dieu d'une façon claire au roi en perspective des rois. Roi qui n'existe pas encore, mais Dieu ayant prévu le coup, avait donné une instruction bien claire. Il est dit dans Deutéronome chapitre 17, verset 18, il est question ici du roi. Et il est dit, quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs et lévites. Il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Le roi ne devait pas simplement régner, le roi devait aussi écrire de sa main une copie de la loi. L'écrire. Pas de photocopieuse. Rien de semblable. La plume et l'encre. C'est-à-dire qu'en l'écrivant, il était obligé de réfléchir à ce qu'il était en train d'écrire. Le roi devait copier lui-même la loi de Dieu. Et l'ayant copiée, l'avoir constamment, nous dit le texte, avec lui, la lire tous les jours de sa vie. Est-ce que nous ne sommes pas appelés à être aussi des rois cohéritiers avec Christ, à lire la loi de Dieu chaque jour, à l'écrire sur notre cœur? Voilà ce que le roi devait faire. Et Josias, qui est plein de bonnes intentions, ne le savait pas. Alors remarquez ici la deuxième chose, et je reviens dans mon livre de deuxième livre des rois au chapitre 22, on va découvrir la loi de l'Éternel. On va retrouver sa Bible. C'est le deuxième élément qui nous prépare au réveil, c'est l'étude de la parole de Dieu, revenir à la parole de Dieu. Et quand vous lisez le texte, les sacrificateurs, le secrétaire vont amener ce livre au roi et vont lui en faire la lecture. Et le texte nous dit, le roi va déchirer ses vêtements. Il dit, comment est-ce possible que nous ayons mis de côté ce texte de la loi de Dieu? Incroyable, inimaginable. Le roi nous dit, le texte va déchirer ses vêtements. Remarquez bien ici ce qui se passe. Dans cette deuxième étape qui consiste à reprendre le chemin vers Dieu pour un réveil, il y a d'abord la prise de conscience de notre état. Et puis ensuite, revenir à la parole de Dieu. Mais dans notre histoire, il y a quelque chose de particulier. Le roi, non seulement prend conscience de la nécessité de relire la loi de Dieu, mais il va plus loin. Verset 13, il dit, allez, deuxième livre des rois, chapitre 22, verset 13, allez consulter pour moi l'Éternel, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui y était inscrit. Le roi prend conscience qu'on vit un moment particulier. Et on apprend que le secrétaire, Ilkija et les autres, allèrent, verset 14, auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalum, fils de Tikva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Vous remarquez ce qui se passe ici, extrêmement intéressant. Ils découvrent la loi de Dieu. Ils découvrent l'importance de la parole de Dieu. Ils y reviennent. Ils la lisent au roi. Et le roi dit, allez donc consulter l'Éternel pour moi. Et ils vont voir la prophétesse. Elle n'est pas loin, elle n'est pas de l'autre côté du monde, elle habite en ville, juste un peu plus loin, à portée de la main, autrement dit. Mais c'est bien évident qu'ils ne se sont pas occupés depuis longtemps, ils ne s'occupaient ni du temple ni de la loi de Dieu. Mais ils vont aller demander, consulter l'Éternel par la prophétesse. Non seulement le réveil commence avec la prise de conscience de l'état dans lequel on est. Elle continue par l'étude de la parole de Dieu, un retour à la parole de Dieu à écrire dans notre cœur. Mais il continue aussi sur ce chapitre de la parole de Dieu avec l'étude de ce que les prophètes ont mis à notre disposition, que nous appelons l'esprit de prophétie. Et ils ont considéré que la loi de Dieu et le témoignage des prophètes allaient de pair. Et ils ne se sont pas contentés de l'un ou de l'autre, ils ont pris les deux. Et je crois que nous sommes appelés à faire exactement la même chose aujourd'hui, à utiliser la parole de Dieu et à suivre le mode d'emploi des réveils d'autrefois, parce qu'il y a aussi un prophète en ville à portée de la main pour nous. Et nous avons largement de quoi lire ce qui a été écrit par le prophète de la fin des temps. Non pas que ça soit l'occasion d'un orgueil quelconque ou de penser que tout est là. Mais si Dieu a jugé bon à la fin des temps de le donner, c'est que c'était nécessaire. D'ailleurs, le roi considère effectivement qu'il est dans une situation particulière. Vous avez remarqué, il dit Grande est la colère de l'Éternel. Le roi Josias a conscience de vivre un moment de jugement. Et la prophétesse va confirmer cela. Un peu plus loin dans le texte, il est dit, verset 16, la prophétesse parle ici pour le roi qui a envoyé des messagers. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné, et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de mériter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Vous avez remarqué, et on prendra le point suivant après, la prophétesse confirme ce que déjà le roi avait compris, c'est qu'il vit une époque de jugement. Et ce n'est pas surprenant non plus d'avoir une parole de prophète associée à une époque de jugement, parce que c'est grand temps, lorsque l'époque du jugement arrive, de savoir ce que Dieu a à dire. Et si je comprends bien la prophétie de Daniel, au chapitre 8 et au chapitre 9, je comprends que le jugement est en train d'avoir lieu dans le ciel maintenant. Maintenant même. Et il a commencé depuis 150 ans. C'est dire à quel point nous vivons une situation tout aussi solennelle qu'à ce moment-là, parce que nous sommes véritablement dans un temps de jugement, et pas n'importe lequel, le dernier jugement. Par conséquent, cette carte qui est donnée par le livre des rois, par rapport à un réveil qui s'est passé il y a longtemps, devient finalement un prototype de ce que nous sommes en train de vivre nous-mêmes aujourd'hui. Dans le livre Tragique des siècles, page 478, c'est seulement lorsque la loi de Dieu est remise à sa juste place qu'un réveil de la foi primitive et de la piété peut avoir lieu parmi le peuple. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez, demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Référence à Jérémie, chapitre 6, verset 16. Seulement lorsque la loi de Dieu est remise à sa juste place. Et je crois que notre compréhension des Écritures nous permet de replacer la loi de Dieu à sa juste place. Dans le monde d'aujourd'hui, certains ont fait de la loi de Dieu le carcan invivable pour certains croyants. D'autres ont dit la loi de Dieu, c'est fini ça, la loi, terminée. Et nous apprenons par l'Écriture qu'il y a un équilibre à trouver. Un équilibre dans tout l'enseignement des Écritures pour donner à la loi de Dieu sa bonne place. Et je crois que nous sommes bien placés pour le faire. C'est un élément crucial pour pouvoir commencer un réveil. Cette étude de la parole de Dieu, nous sommes invités à la faire d'une façon personnelle. Et j'en profite pour rappeler que dans cette initiative de réveil et de réforme que l'Église a démarrée, ils ne se sont pas contentés de nous donner des idées, ils nous ont donné aussi des éléments concrets pour le faire. On a commencé depuis quelques semaines déjà la lecture systématique de l'Écriture ensemble. L'Église adventiste dans le monde entier se remet à relire la Bible. On parlait tout à l'heure, on faisait référence de l'Église adventiste comme le livre de la Bible. Mais voilà, l'Église adventiste relit sa Bible depuis le dernier conseil de la conférence générale jusqu'à la prochaine conférence générale dans sa session plénière en 2015, on aura l'occasion de relire les 1189 chapitres des Saintes Écritures d'une couverture à l'autre. Je vous invite à aller sur le site Réveil Réforme pour retrouver aussi ce programme régulier. Un chapitre par jour. On ne vous propose pas d'en lire toute une section énorme, on vous propose d'en lire un chapitre par jour. Et je vous invite à à suivre ce programme aussi, à vous joindre à cette initiative mondiale de relire la Bible ensemble avec tous les frères et sœurs du monde entier. Et puis, il y a aussi cette lecture, cette étude collective de la Bible. Et je repense à ce texte un peu plus loin, juste un peu plus loin, et nous allons y revenir dans un instant, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 23. Il est dit, le roi Josias, au verset 1, fit assembler autour de lui tous les anciens de Juda de Jérusalem. Il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda, tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le monde, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils ne se sont pas contentés de faire une étude personnelle de cette loi dans leur coin. Ils ont rassemblé tout le peuple pour étudier la parole de Dieu. Et dans ce sens-là, je crois que nous avons aussi le privilège, nous, d'avoir le peuple de Dieu pour partager la parole en même temps. Aller dans la maison de Dieu pour étudier. Et c'est ce que nous faisons régulièrement à l'école du sabbat, le culte. Mais je sais que l'école du sabbat, c'est très, très tôt le matin. C'est très tôt le matin. Ce qui veut dire que quand on commence l'école du sabbat dans une église, quel pourcentage de membres d'église sont là à l'école du sabbat? Alors tout le monde vient pour la grand-messe à 11h. N'est-ce pas? Et pour le repas l'après-midi, pas de problème. Mais le matin, c'est tôt. Rendez-vous compte, l'école du sabbat commence à 10h. C'est trop tôt. On n'arrive pas à venir à l'école du sabbat. C'est trop tôt. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est l'église à l'étude, ça, non? C'est l'église à l'étude. Alors qu'est-ce que nous faisons de l'école du sabbat, qui est une des institutions extraordinaires que l'église a pour étudier la parole de Dieu ensemble? Et en plus de ça, l'étude de l'école du sabbat, que vous soyez à Montréal, à Tokyo, à Moscou, à Paris ou à Johannesburg, ce sera le même sujet. Ce sera le même sujet. Parce que c'est l'Église à l'étude. C'est l'Église à l'étude. Allez vous promener dans le monde, vous allez pouvoir étudier votre école du sabbat de la même manière qu'à la maison. Mais ça, c'est la famille adventiste à l'étude. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Oh, j'arrive pas à me lever, c'est un peu tôt. Bon, je vais aller au culte. C'est qui prêche, au fait, aujourd'hui? Mais ça ressemble plus à l'Église qui se rassemble pour la parole de Dieu, ou bien? Vous me suivez? L'étude de la parole de Dieu, dans un temps où précisément nous vivons le jugement dernier. Nous l'avons peut-être oublié, parce que les pionniers ont tellement parlé de la prophétie que maintenant on va passer à autre chose. Et pourtant, là-dehors, les gens que nous côtoyons constamment ont besoin de savoir ce qui se passe dans le monde, ont besoin de savoir ce qui va arriver dans le monde, ont besoin de savoir ce qui se passe dans le ciel. Il y a tellement de gens qui cherchent à savoir ce qui se passe dans l'au-delà. Mais qui est mieux placé que nous pour leur dire ce qui se passe au-delà de ce que les yeux peuvent voir dans le sanctuaire céleste aujourd'hui? Qui est mieux placé que ceux qui ont étudié depuis bientôt 2 siècles les Écritures pour comprendre le message du sanctuaire? Les prophéties sont justement ce dont le monde d'aujourd'hui a besoin pour être rassuré et affermi dans sa confiance en Dieu. Nous vivons justement ce moment de jugement-là. La parole de Dieu, c'est cet élément, ce point numéro 2, qui est un facteur de réveil à notre disposition. Écoutez cette phrase qui est tirée du 5e livre des témoignages à la page 663. La parole de Dieu est suffisante pour éclairer l'esprit le plus embrumé et peut être comprise par ceux qui ont le désir de la comprendre. Ah, c'est gentil, merci. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a que moi qui en ai. « La parole de Dieu est suffisante pour éclairer l'esprit le plus embrumé et peut être comprise par ceux qui ont le désir de la comprendre. Mais malgré tout cela, certains de ceux qui prétendent faire de la parole de Dieu leur étude vivent en contradiction directe avec ses enseignements les plus clairs. Afin de laisser ces hommes et ces femmes sans excuse, Dieu donne des témoignages clairs et précis pour les ramener vers la parole qu'ils ont négligé de suivre. Plus clair, je n'ai pas non plus. C'est justement la prophétesse Hulda qui a écrit ça. Les esprits embrumés. Je peux me sentir à bien des égards aussi dans cet esprit-là. Embrumé par tous les soucis de la vie que nous avons tous les uns et les autres. Cependant, ces témoignages nous sont donnés pour nous laisser sans excuses. C'est dire à quel point nous vivons un moment de l'histoire de l'humanité où il n'y a plus d'échappatoire. Des choix décisifs devront être faits. Le troisième point dans cette marche vers le réveil se trouve dans notre texte au chapitre 23, deuxième livre des rois, chapitre 23. Il nous est dit au verset 3, « Le roi se tenait sur l'estrade. Il traita alliance avec l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes, ses lois, de tout son cœur, de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrite dans le livre. » Josias prie. Et là, c'est une prière avec tout le peuple, qui va conduire, on verra tout à l'heure, au renouvellement de l'alliance avec Dieu. La prière. Cet esprit de prière a été souligné par Jésus. Parce que quand on parle de réveil et de réforme, on comprend bien que ni l'un ni l'autre ne va être produit par nous-mêmes. Il va être produit par Dieu. Par l'agent numéro un de Dieu, dont la tâche est précisément de produire réveil et réforme en nous, le Saint-Esprit. Mais comment est-ce qu'on fait pour recevoir le Saint-Esprit? Jésus avait dit, demandez. Et comment est-ce que nous demandons? Par la prière. Et là, la prière prend plusieurs formes. La prière personnelle, bien entendu, mais aussi la prière de l'Église. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette initiative de réveil et de réforme de l'Église, on ne nous a pas simplement invités à relire un chapitre de la Bible chaque jour, on nous a invités, le premier sabbat de chaque trimestre, à avoir un jour de jeûne et de prière dans nos églises. Précisément pour rassembler l'Église dans cet esprit d'intercession, de prise de conscience de nos besoins et de demander à Dieu de nous accorder la puissance de son Saint-Esprit. Alors je vous invite dans vos églises à mettre ça aussi en place, dans chacune de vos églises, sachant que quand vous le faites dans votre église, vous êtes en harmonie avec tous ces frères et sœurs de l'Église adventiste du monde entier qui font exactement la même chose et qui prient exactement pour la même chose que vous ce jour-là. L'Église en prière. Parfois, on se demande, mais si je dois prier plus que quelques secondes, est-ce que je vais dire au Seigneur, moi? Vous avez remarqué comme on est plein d'habitudes? On a tous nos formules. Je me souviens, j'étais enfant, j'étais pas bien grand, mes parents m'avaient appris à prier. Et je me souviens qu'un jour, à la fin de ma prière, qui avait vraisemblablement été la répétition de l'enregistrement typique de ma prière, ma mère me dit, mais est-ce que tu ne voudrais pas dire autre chose au Seigneur que ce que tu dis tout le temps? J'ai réalisé qu'il fallait que je change de formule. Écoutez, imaginez que vous avez un ami ou une amie. Chaque fois que vous le ou la rencontrez, vous lui dites exactement la même chose. Bonjour, comment ça va? Moi ça va très bien. Où vas-tu aujourd'hui? Eh bien, on se revoit bientôt, au revoir. Chaque fois, vous lui ressortez le même enregistrement. Au bout d'un moment, votre ami va vous dire quoi? T'as pas autre chose à me dire? C'est que ça que tu sais? Est-ce que vous arrivez à avoir un ami en lui disant tous les jours la même chose? Difficile. Et vous voudriez que Dieu se satisfasse de cet enregistrement qu'on lui remet la cassette tous les jours, mais ça s'approche finalement des moulins à prière, ça non? À peu près. Alors, à partir du moment où on commence à dire à Dieu ce qu'on a dans le cœur, ou sur le cœur, ben vous allez vous rendre compte que quelques secondes sont largement insuffisantes pour lui parler et lui dire ce qu'on a à lui dire. Qu'est-ce qu'on lui dit? Toujours la même chose? Parfois, on se demande, mais comment est-ce que Jésus ou d'autres croyants ont passé des nuits entières en prière? Mais ils disent quoi au Seigneur? Écoutez, ça m'est arrivé de passer des nuits entières à marcher et à prier. Mais j'avais des choses à lui dire toute la nuit. Alors j'ai compris que Jésus pouvait passer des nuits entières en prière parce qu'il en avait des choses à dire à son Père à propos de lui, à propos de tous ces gens qu'il avait rencontrés pendant la journée et qui avaient besoin de sa présence. La prière. Alors évidemment, on ne peut pas passer à côté de ce passage que vous connaissez. Message choisi, volume 1, page 121. Le plus grand, le plus urgent de nos besoins, c'est celui d'un réveil de la véritable piété parmi nous. Notre premier souci devrait être de le rechercher. Il convient de déployer les efforts les plus vigoureux pour obtenir la bénédiction du Seigneur, non parce que Dieu ne serait pas désireux de nous l'accorder, mais parce que nous ne sommes pas prêts à la recevoir. Les efforts les plus vigoureux, ça c'est la partie de ce texte qui m'interpelle. Parce que je me rends compte que mes efforts pour obtenir ce réveil ne sont pas aussi vigoureux que ce que le Seigneur demande. Et un peu plus bas dans le texte que vous connaissez, il est dit « Un réveil ne peut être conçu que comme réponse à la prière ». Donc la prière est dans cette histoire l'ingrédient numéro 3 d'un réveil vers la transformation. Le réveil. Le numéro 4 dans notre texte se trouve encore une fois au chapitre 22, à partir du verset 19. La prophétesse adresse encore au roi ce message de la part du Seigneur. On a lu tout à l'heure les versets où il était question du jugement. Et il continue au verset 19 en disant « Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un sujet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. » Humilité. Humilité et repentance. C'est presque naturel parce que quand on a pris conscience de l'état dans lequel on est, on se dit « aïe, 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 j'ai vraiment besoin que le Seigneur fasse quelque chose pour moi. » Et tout d'un coup, cette arrogance, cette prétention, cet air hautain, cette propre satisfaction de soi ou cette propre justice, commence à partir parce qu'on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et je crois que c'est un élément essentiel aussi dans notre marche vers un réveil. Service chrétien, page 254. Il n'y a pas de limite à l'efficacité de celui qui met le moi de côté. Pardon. Il n'y a pas de limite à l'efficacité de celui qui, mettant le moi de côté, permet au Saint-Esprit d'agir dans son cœur et mène une vie entièrement consacrée à Dieu. Humilité, repentance, une attitude de l'esprit dans notre contact avec Dieu. Et j'aimerais vous rappeler que c'est ce que Dieu demande. Dans le livre du Lévitique au chapitre 23, se trouve la liste des fêtes d'Israël. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les étudier en détail, mais dans une de ces fêtes en particulier, il y a quatre choses que Dieu demande à son peuple. Lévitique chapitre 23, je vous propose d'y jeter rapidement un coup d'œil, à partir du verset 26 il nous est décrit là la fête des expiations. La fête des expiations, ça devrait vous rappeler des choses aux uns et aux autres. Et dans l'explication de cette fête, remarquez bien, il y a plusieurs instructions précises. Verset 27, le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations. Quatre instructions. Sainte convocation, humiliez vos âmes, vous offrirez des sacrifices, vous ne ferez aucun ouvrage. On pourrait passer des heures à étudier ces quatre instructions qui sont données là, mais j'attire simplement votre attention sur le fait que la deuxième qui nous est donnée, c'est humiliez vos âmes. C'est une prescription que le Seigneur nous donne. Et encore une fois, la fête des expiations, vous vous en souvenez parce que vous connaissez la prophétie de Daniel, chapitre 8 et 9. La fête des expiations, c'est une image du jugement qui a lieu dans le ciel. On se retrouve donc dans la situation où on était tout à l'heure, jugement dernier. Mais si nous vivons cette époque du jugement dernier, alors comment est-ce qu'on va humilier nos âmes ? Laisser de côté cette arrogance, cet orgueil, cette propre justice. Vous savez, on rencontre toujours dans l'Église et hors de l'Église des gens qui savent tout, ils connaissent tout. Je les appelle des membres Rona, parce que nous, on l'a. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous connaissez des gens comme ça ? Est-ce que vous êtes comme ça ? Est-ce que je suis comme ça ? Toi, tu ne l'as pas. Moi, nous, on l'a. Dans notre Église, nous, on l'a. Essayez de leur apprendre quelque chose à ceux-là. Difficile. Et on retombe à ce moment-là dans notre texte. La transformation. Soyez transformés. Le texte qu'on avait lu tout à l'heure dans Service chrétien parlait de mettre le moi de côté. Dans le séminaire que vous avez eu cet après-midi, il en était encore question. Faire mourir le moi. Seulement, j'aimerais vous proposer une chose. Transformer. Romains chapitre 12. Le mot qui est employé pour transformer, c'est le mot métamorphoser. Ça donne déjà une dimension différente de ce dont on parle quand on parle de transformation. Quand on parle de transformation, on parle de rénovation. Rénovation. On va rénover, on va transformer la maison, on va mettre un mur ici au lieu de là, on va rechanger la cuisine, on va améliorer, refaire la peinture de la chambre. Transformation de la maison. Mais ce n'est pas une transformation que le Seigneur veut faire. C'est une métamorphose. C'est tout changer. Alors, je crois que ce que le Seigneur veut faire, ce n'est pas une transformation, c'est une résurrection. Parce que si je limite ma vie spirituelle à une rénovation de ce qui est là, le rafistolage pour que ça ait juste bonne allure, je ne suis pas rentré dans le plan de Dieu, du réveil et de la réforme, ni de la transformation dont il est question dans ce texte-là. On parle de métamorphose. C'est le mot grec qui est employé dans le texte. Mais une métamorphose, elle n'est réalisable que par l'action de Dieu qui ressuscite un mort, parce que je suis appelé à mourir. La fameuse mort du moi dont on parlait tout à l'heure. Alors pour penser être transformé, il va falloir penser métamorphose, il va falloir penser mort à soi-même pour pouvoir ressusciter. C'est un programme beaucoup plus exigeant, ça, que seul Dieu peut accomplir. Réveil, résurrection. Une transformation en profondeur, métamorphose. Changer les formes, changer tout. Refaire, recréer. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Nous sommes une nouvelle créature, nouvelle création. C'est ce que demande cette transformation-là. C'est beaucoup plus exigeant que ce que ce mot me laisse supposer à première vue. Il y a dans notre texte un cinquième ingrédient sur lequel j'aimerais insister maintenant. Et je reviens à notre texte du deuxième livre des Rois, au chapitre 22, où il y a cet élément numéro 5. Il apparaît un petit peu plus loin dans le texte, mais il est important parce qu'il fait partie de ce même mouvement qui s'est passé à ce moment-là. Deuxième livre des Rois, chapitre 23, au verset 21, il est dit « Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. » Une Pâque exceptionnelle. Mais quand on pense à Pâques, on pense à l'agneau pascal. Et cet agneau pascal, c'est qui? Mais c'est Jésus. Autrement dit, ce réveil qui commence par une prise de conscience de ce qu'on est, qui continue par l'étude de la parole et de l'esprit de prophétie, par la prière, par l'humilité, débouche nécessairement sur la personne de Jésus, centrale à toute l'entreprise. Parce que, en réalité, c'est à propos de Jésus que ce réveil se fait. N'est-ce pas? Il faut donc que Jésus soit véritablement le centre de ce réveil. Et vous vous souvenez, dans le livre de l'Apocalypse, on ne va pas reprendre le texte, vous le connaissez, il est question des 144 000. Et il nous est dit qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Mais si les 144 000 à la fin suivent l'agneau partout où il va, ça veut dire qu'avant la fin, ils ont déjà appris à suivre l'agneau partout où il va. Maintenant, autrement dit, c'est à propos de Jésus cette affaire-là. Vous savez, nous disons, le christianisme, ce n'est pas d'abord une doctrine, ce n'est pas d'abord un enseignement, ce n'est pas d'abord une pratique, ce n'est pas d'abord une église, ce n'est pas d'abord une manière de s'habiller, de manger ou de vivre. Le christianisme, c'est d'abord une personne. Il n'y a personne pour dire amen à ça?
Amen.
Mm-hmm. Le christianisme, c'est une personne. Mais dites-moi maintenant, l'adventisme, c'est quoi? Si l'adventisme n'est pas une personne, nous ne sommes pas adventistes. Si le christianisme est une personne, il faut nécessairement que l'adventisme soit d'abord une personne. Ce sera aussi un enseignement, ce sera aussi une pratique, ce sera aussi une réforme. Mais chaque chose a sa place. Si le christianisme est une personne, il faut que l'adventisme soit une personne. Si ce n'est pas le cas, je ne suis pas l'adventiste selon les Écritures. Sons and Daughters of God, page 221. Ceux qui font du sacrifice extraordinaire de notre Sauveur l'objet de leur étude, grandissent en grâce et en connaissance. Élevez l'homme du calvaire plus haut et toujours plus haut. Exaltez la croix de Christ. C'est là que se trouve la puissance de Dieu. Exaltez Jésus. Et c'est vrai que nous avons souvent mis de l'emphase sur des aspects du message adventiste et de notre foi. Et c'est bien, chaque chose a sa place. Mais Jésus au centre. Rien ne peut prendre la place de Jésus. Rien. Dans ce réveil dont il est question ici dans l'Ancien Testament, la Pâque était cette image de ce retour à Jésus, l'agneau de Dieu. Et il nous est dit qu'il n'avait jamais vu une Pâque pareille depuis l'époque primitive. Je crois qu'il est nécessaire de remettre Jésus au milieu de l'adventisme aussi. C'est un élément nécessaire pour que le réveil puisse véritablement avoir lieu. Le sixième ingrédient se trouve dans notre histoire du livre des Rois au chapitre 23, et nous avons lu déjà le passage. C'est les premiers versets du chapitre 23 où il est dit que le roi a rassemblé tout le peuple. On ne va pas relire le passage, on l'a lu tout à l'heure. Il était dit que le roi a rassemblé tout le monde, les officiels, les gens du peuple, les hommes, les femmes, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qui s'est vécu individuellement. Vous vous souvenez, lorsque, au chapitre 2 du livre des Actes, Dieu va se manifester par l'action de son Saint-Esprit, dont on a vu l'importance dans les points précédents. Il nous est dit, et vous connaissez ce texte, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Il y a l'Église qui est là. Ça se vit avec l'Église, ça. Et puisqu'on parle de jugement et de fin des temps, c'est exactement la même chose. Tournez quelques pages dans le livre du prophète Joël. Et vous vous souvenez que le livre du prophète Joël parle d'une façon claire des événements de la fin et du jugement. Joël, chapitre 2. Vous vous souvenez qu'au chapitre 2, dans les versets qui suivent, versets 28 et suivants, il est question de cette pluie de l'arrière-saison, dont il est parlé déjà au verset 23. Mais plutôt dans ce même chapitre, il est dit, verset 15, chapitre 2, verset 15, « Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, les enfants, même les nourrissons, à la mamelle. » que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Voilà ce que le Seigneur propose à la fin pour pouvoir accomplir son désir de déverser sur son Église son esprit avec puissance. Assemblez-les tous. Et c'est là qu'est la vie de l'Église dans toute son importance. Laissez-moi lire quelque chose qu'un ami belge, puisqu'on a dit que j'étais d'origine belge, alors je veux montrer que j'ai des amis belges qui réfléchissent pas mal. Un ami belge qui a écrit ceci. L'Église n'est pas un salon de coiffure où l'on coupe les cheveux en quatre. L'Église n'est pas un restaurant où l'on va pour bien manger. L'Église n'est pas un musée où l'on est spectateur. L'Église n'est pas une station-service où l'on fait le plein de temps en temps. L'Église n'est pas un wagon-lit où seul le conducteur est censé ne pas dormir. L'Église n'est pas une chambre froide qui repousse tout nouvel arrivant. Mais alors on pose la question, peut-on être chrétien sans se rattacher à l'Église ? Réponse, oui. De la même manière qu'un étudiant qui est sans fréquenter les cours. Oui, de la même manière qu'un soldat sans armée. De la même manière qu'un commerçant sans client. De la même manière qu'un marin sans navire. De la même manière qu'un joueur de grosse caisse sans orchestre. On peut être chrétien sans être attaché à l'Église ? Oui, de la même manière qu'un footballeur sans équipe. Qu'un savant qui ne communique pas ses découvertes. Ou mieux encore, peut-on être un chrétien sans être attaché à l'Église ? Oui, de la même manière qu'une abeille sans ruche. L'Église. Elle est importante, l'Église. Oh, je sais, je la connais, l'Église. Je suis né dedans. Et si vous voulez, je peux vous écrire une encyclopédie sur tout ce qu'il y a de mauvais dans l'Église. Je peux probablement en écrire plus que vous. Et alors, est-ce que ça va nous arranger, nous, dans notre marche avec Dieu ? Parce qu'à côté de tout ce qui ne va pas dans l'Église, il y a un nombre incalculable de choses qui sont des bénédictions dans l'Église, et des expériences extraordinaires dans l'Église, et des gens extraordinaires que l'on va peut-être juger sur la situation qu'ils ont maintenant, sans savoir d'où ils viennent, et du parcours qu'ils ont fait, et qui est peut-être plus extraordinaire que le mien, qui suis né dans la synagogue, et qui n'a pas eu besoin de passer au travers de toutes les épreuves que certains ont vécues pour arriver où ils en sont aujourd'hui. L'Église. Importante, l'Église. Vous vous souvenez de ce texte dans l'Épître aux Hébreux ? Regardons-le ensemble, voulez-vous, au chapitre 10. Hébreux, chapitre 10. Il est dit au verset 24, Hébreux chapitre 10, verset 24. Surveillons-nous les uns les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Ah, c'était pour voir si vous écoutiez. Le verset 24 dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est très différent si on dit surveillons-nous les uns les autres. C'est une autre mentalité, c'est une autre action complètement. Et puis le texte dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Vous avez l'impression que le jour approche, vous ? Alors l'Église a son importance. C'est important l'Église. Quand la parole de Dieu parle de l'épouse, parle de l'Église, parle pas simplement de moi tout seul. Il parle de l'Église. L'Église n'est pas une option. L'Église n'est pas quelque chose dont je peux me passer si j'en ai envie. On voudrait faire de l'Église un lieu de divertissement. Et si on n'a pas été bien diverti aujourd'hui, ce n'est pas une bonne église, ce n'est pas un bon prédicateur, après tout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire dans l'Église, dans beaucoup de domaines. Mais le reste de la route à accomplir, c'est précisément ce dont nous sommes en train de parler, réveil et réforme. Et si nous ne sommes pas avec pour l'accomplir, le Seigneur est dépourvu des outils qu'il a choisis pour y arriver, sur place. L'Église n'est pas une option. Et par conséquent, nous voudrions parfois faire de l'Église quelque chose qui soit à la mesure de ce que moi j'aurais envie qu'elle soit. Que ce soit par rapport aux vêtements, par rapport à la musique, par rapport à un tas de choses, pour que ça soit plus le fun, quoi. Et c'est vrai que l'Église doit être sympa, c'est son rôle, mais les formes ne vont pas nécessairement changer le fond de la chose. Les formes ne vont pas nécessairement changer le fond de la chose. Parce que vous avez entendu, et peut-être que vous l'avez dit aussi, « Oh, j'ai pas envie d'y aller aujourd'hui. » Et ça m'arrive aussi. C'est pas une confession, c'est un fait. Mais qu'est-ce que ça change? Ça change rien, parce que l'Église, c'est ma famille, j'y appartiens. Et puis dans la famille, c'est toujours pareil, il y a des hauts, il y a des bas, et je vis avec ça. Et je n'y vais pas parce que j'ai envie d'y aller, j'y vais parce que Dieu m'appelle. C'est la sainte convocation. Alors, quand Dieu m'appelle, je ne vais pas lui dire, Seigneur, tu sais, après tout, ça ne me tente pas aujourd'hui. Voir une autre fois. C'est lui qui m'appelle. J'y vais. Parce que l'Église n'est pas mon Église locale. Je suis membre de l'Église adventiste. Avant d'être membre de l'Église locale qui porte tel ou tel nom. Et ça me permet de comprendre que ma vision et mon appartenance est une famille mondiale qui fait le tour du monde, qui parle beaucoup de langues, qui couvre beaucoup de cultures, mais qui va toutes dans le même sens et qui attend le retour de Jésus. J'appartiens à l'Église adventiste mondiale. Il se trouve qu'aujourd'hui, je suis ici, demain je serai ailleurs peut-être. Mais mon appartenance, elle est d'abord à cette famille de 17, 18 et même plus de millions de gens qui ont cette même intention, cette même parole de Dieu entre les mains, cette même profession de foi, ce même sauveur, et qui attendent son retour avec impatience. C'est à cela que j'appartiens, et qui se vit dans le monde entier, pas seulement dans mon petit bled, avec peut-être les 15 membres que je rencontre chaque sabbat. Aujourd'hui, la technologie nous donne la possibilité d'ouvrir nos fenêtres sur le monde et sur l'Église mondiale. Ne jetez pas le bulletin missionnaire à la poubelle. C'est une fenêtre ouverte sur le monde. Les revues adventistes que nous recevons du monde entier, c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Regardez ce qui se passe à l'autre bout du monde. Regardez ce que le Seigneur fait pour ceux qui cherchent de tout leur cœur de le rencontrer. Ouvrez votre télévision, mettez votre antenne en route, et pour ceux qui comprennent l'anglais, vous avez accès à une foule d'informations pour voir comment l'Église mondiale vit aujourd'hui. L'Église n'est pas une option. Le septième point, en rapport avec ce réveil, il est encore dans notre histoire du deuxième livre des Rois au chapitre 22. C'est qu'en réalité, une fois que mon cœur est touché par ce que le Seigneur veut me faire comprendre et par les moyens qu'il met à ma disposition, il me pousse à l'action. On est dans le deuxième livre des Rois au chapitre 22, au chapitre 23, et il est dit au verset 4. Le roi ordonna à Ilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux, et il les brûla hors de Jérusalem dans le champ du Cédron et en fit porter la poussière à Bethel. Et vous lisez la suite du chapitre, vous vous rendez compte qu'il y a à la suite de cela une réforme extraordinaire pour éradiquer le culte païen du peuple. Il y a maintenant une implication dans une mission. Une mission qui, dans ce cas particulier, est une mission de purification du peuple et de la foi qu'ils vivent, parce qu'elle est envahie, polluée par le paganisme que le père de Josias avait d'ailleurs installé à haute dose. Il va falloir jeter en bas toutes ces idoles, détruire tous ces hauts lieux, réduire tout cela à néant pour que Dieu réapparaisse et que le Christ soit au centre, la Pâque. C'est une mission, c'est une restauration de la foi du peuple. Et vous connaissez ce passage, l'apôtre Pierre en parle dans sa première épître, vous au contraire. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pourquoi est-ce que nous parlons de réveil? Pourquoi est-ce que nous sommes appelés? Pourquoi est-ce que nous nous sommes engagés envers le Seigneur? Afin que vous l'annonciez. Ce n'est pas simplement pour s'asseoir dessus. C'est pour remplir une mission. Cette mission, elle se trouve aussi soulignée de plusieurs manières. J'ai ici ce texte de Service chrétien, la page 244. Il est en droite ligne avec ce que nous sommes en train de dire ce soir. La grande effusion de l'Esprit de Dieu, qui illuminera la terre entière de sa gloire, ne surviendra que lorsque nous aurons un peuple éclairé, sachant par expérience ce que signifie d'être ouvrier avec Dieu. Lorsque nous nous serons consacrés entièrement et de tout cœur au service de Christ, Dieu le reconnaîtra en répandant son esprit à profusion. Mais cela ne peut se produire tant que la plupart des membres de l'Église ne sont pas ouvriers avec Dieu. Ouvriers avec Dieu. Autrement dit, nous avons dans les Écritures depuis longtemps déjà la carte déjà écrite pour savoir ce que nous sommes invités à faire pour permettre le réveil et la réforme. Nous l'avons regardé succinctement ce soir en sept étapes, parce que ce sont les sept étapes qui sont dans les Écritures, dans cette histoire. Elle se situe exactement dans la situation où nous sommes, aujourd'hui à la fin des temps, dans le temps du jugement. Cette vieille carte, ce vieux mode d'emploi, j'aimerais vous le proposer aujourd'hui pour le renouvellement de notre vie personnelle, pour le renouvellement de notre vie d'Église, pour le renouvellement de notre mission, et pour que finalement cette transformation, cette métamorphose dont il est question, puisse s'accomplir. Cette étape, prendre conscience de notre état, étudier la parole de Dieu et l'esprit de prophétie, vaquer à la prière personnellement et en tant qu'Église, vivre l'humilité, la repentance, mettre Jésus au centre, s'assembler avec l'Église, vivre l'Église, et se lancer dans la mission de l'Église, s'engager dans la mission de l'Église. Demain, nous regarderons cette métamorphose, à quoi elle correspond dans le plan de Dieu. Mais en attendant, je suis simplement tenté de vous dire et de répéter à moi-même et à vous ce que Jésus disait. Fais cela et tu vivras. Amen.